sound check. It's okay. That's it, man.
Chromoscopie, l'émission politique divergente de la bande FM Montpellier-Rennes, le loup et le renard vous saluent. Aujourd'hui, nous rentrons dans l'âme et dans le cœur du vivre ensemble. Nous partons scruter l'intime. Mais avant de nous intéresser aux modalités qui régissent nos comportements en société, ne faut-il pas avant tout nous accepter nous-mêmes ? Comment bien vivre avec les autres si on ne sait vivre avec soi ? Un petit détour vers la psychanalyse peut ici peut-être s'avérer utile. Alors, si je sais m'accepter, je peux me tourner vers les autres. Ceux que je connais, que je croise dans la vie quotidienne, c'est la famille avec laquelle je vis. Si tant est que je ne sois célibataire, ce sont aussi les voisins que je croise dès le matin. Mais encore les collègues de travail, si tant est que j'ai un travail. Là, une analyse donnée par un sociologue peut éclairer la chose. Enfin, je suis citoyen d'ici et d'ailleurs. Et le vivre ensemble s'applique jusque-là. Comment me comporter avec ceux qui me sont étrangers ? Ceux que je ne connais que par les médias. Là, un politologue empreint de sciences politiques peut ouvrir la voie vers un humanisme de bon aloi. Tout cela pour tenter de comprendre comment on pourrait vivre ensemble, ou pas, en France, sachant que cette espèce de contrat social s'est délité au cours du XXe siècle, au point qu'aujourd'hui, en 2010, la question paraît même saugrenue. Est-il vraiment nécessaire de vouloir vivre ensemble ? Ne pourrait-on pas simplement nous contenter de cohabiter en collaborant ? Enfin, vaste débat pour l'heure à venir. Et en attendant, un petit jingle. Bon. Truc pour se réveiller. Laissez-moi vous présenter nos invités, nos trois invités. Le psychanalyste Marc Lévy. Oh, c'est presque un habitué de la radio maintenant. Ça fait combien ? Deux, trois fois au moins, hein, facilement que vous êtes parmi nous. Marc Lévy, apôtre laïque de la réparation des esprits. Il est l'écouteur, mandarin respecté par ses disciples. Il est l'artiste des âmes, oublieux, selon quelques médecins de la faculté, de toute science dite dure. Monsieur Lévy, en praticien de la psychanalyse, fait rentrer ses patients dans leur rang, peut-être pour les aider à mieux vivre, y compris avec les autres. Bonjour. Le sociologue Patrick Tacussel, plongé dans l'imaginaire, il compte sur les comptes pour échafauder une sociologie parfois astrale. Il est tout à la fois, selon ses détracteurs, ce qui l'empêche d'être rien. Patrick Tacussel traîne son chapeau sur le campus de l'université Paul-Valéry depuis des lunes et use parfois ses guêtres sur le bitume des manifs montpelliéraines. Il imaginera pour nous ce qu'est le vivre ensemble du point de vue de la sociologie qu'il représente aujourd'hui. Quant à notre politologue qui vient d'arriver dans nos studios, Emmanuel Négrier, juriste de formation, il est devenu ces dernières années le politologue chéri des médias languedociens. À la différence de ses aînés, il ne se contente pas dans ses analyses de scruter le baromètre des uns et des autres. Il s'est allé au-delà du « ça monte et ça descend ». Emmanuel Négrier a accepté aujourd'hui de débattre avec psychanalystes et sociologues de ce qui reste du contrat social en notre douce France. Enfin bref, vaste programme.
Bonjour messieurs.
Donc bonjour à vous trois. Mais avant tout, pour cadrer peut-être un petit peu le débat, ma petite chronique habituelle, c'est le vivre ensemble ou pas, hein. Je dirais non, je veux plus vivre ensemble, je veux plus, j'en ai marre. Non, c'est vrai, après tout, pourquoi diable devrais-je m'imposer une conduite citoyenne ou civique pour complaire aux autres, quels qu'ils soient ? Ne suis-je pas en droit d'exiger qu'on me foute la paix ? Vivre ensemble, que voilà un concept sorti tout droit d'une quelconque religion, fût-elle civile. Encore un peu, on nous déclarerait membre de l'église machin de l'Oumma bidule, voire citoyen français. Mais j'ai rien demandé à personne, moi. Cette belle notion induit comme un contrat social. Mais pourquoi le signerais-je ? Il suffit que l'on m'impose ce genre de servitude volontaire. Pourtant, il est inconcevable de ne point établir quelques règles de base afin que la vie avec les autres puisse être au moins supportable. Alors plongeons-nous dans le sens des mots. Pour le moins, nous sommes tous contraints de coexister. d'exister les uns à côté des autres. Bien. Alors établissons des modus vivendi, des no man's land entre nous. Vivre à côté n'est pas nécessairement vivre ensemble. Et si je souhaite aller au-delà, bah cela ne devrait relever que de mon bon vouloir. D'autre part, à moins de vivre en ermite, nous sommes dans l'obligation de cohabiter les uns à côté des autres. Mais là encore, pourquoi devrais-je me contraindre à plus que le nécessaire ? Allez, à l'anglaise, comme les familles qui pratiquent la colocation pour des raisons budgétaires, elles ne s'obligent pas à vivre ensemble. Je veux dire à manger, discuter, jouer, dormir ensemble. De la même façon, on travaille. Que je doive collaborer est une chose. Que je doive vivre ensemble avec des collègues qui me sont étrangers, ça c'est autre chose. Quant aux autres, ceux que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, en vertu de quelle bizarre idéologie serais-je soumis à leur diktat, quel qu'il soit. En fait, la seule chose que je ne peux éviter, quoi qu'il arrive, c'est de vivre dans la meilleure intelligence possible avec... avec moi. On n'a qu'une vie, nom de Dieu. Et certainement, si je m'aime bien, les autres me deviendront peut-être plus supportables. Quoi qu'il en soit, un seul adage tient. Aime-toi toi-même, tu n'en aimeras que mieux les autres. Et maintenant, place au débat avec un psychanalyste, un sociologue et un politologue. Mais avant tout, une petite mise en bouche musicale avec un vieux Brassens, Tempête dans un bénitier.
Tempête dans un bénitier, le souverain pontife avec les évêques, les archevêques, nous font un satané chantier. Ils ne savent pas ce qu'ils perdent, tous ces fichus calotins. Sans le latin, la messe nous emmerde. À la fête liturgique, plus de grande pompe soudain. Sans le latin, plus de mystère magique. Le rite qui nous envoûte s'avère alors anodin. Sans le latin, et les fidèles s'en foutent. Ô très sainte Marie, mère de Dieu, dites à ces putains de moines qui nous emmerdent sans le latin. Je ne suis pas le seul morbleu, depuis que ces règles sévissent, à ne plus me rendre à l'office dominical que quand il pleut. Ils ne savent pas ce qu'ils perdent, tous ces fichus calotins. Sans le latin, la messe nous emmerde. En renonçant à l'occulte, faudra qu'il fasse Tintin. Sans le latin, pour le denier du culte. À la saison printanière, suisse bedeau sacristain. Sans le latin, feront l'église buissonnière. Autre sainte Marie, mère de Dieu, dites à ces putains de moines qui nous emmerdent sans le latin. Ces oiseaux sont des enragés, ces corbeaux qui s'y rognent tranchent, la Seine est bonne vieille branche de la croix où ils sont perchés. Ils ne savent pas ce qu'ils perdent, tous ces fichus calotins. Sans le latin, la messe nous emmerde. Le vin du sacré calice se change en eau de boudin. Sans le latin, et ses vertus faiblissent. À Lourdes, c'est ou bien Parme, comme à Quimper Corentin. Le presbytère, sans le latin, a perdu de son charme. Ô très sainte Marie, mère de Dieu, dites à ces putains de moines qui nous emmerdent sans le latin. Ils ne savent pas ce qu'ils perdent, tous ces fichus calotins. Sans le latin, la messe nous emmerde. Le vin du sacré calice se change en eau de boudin. Sans le latin, et ses vertus faiblissent. À Lourdes, c'est tout bien Parme, comme à Quimper Corentin. Le presbytère, sans le latin, a perdu de son charme. Autre sainte Marie, mère de Dieu, lutteuse à ses putains. Deux moines qui nous emmerdent sans le latin.
Eh bien, retour dans nos studios Divergence pour une émission, une fois de plus, sur le vivre ensemble, en la compagnie de Marc Lévy, notre mandarin psychanalyste, de Patrick Tacussel, l'homme au chapeau de la fac de lettres, et d'Emmanuel Négrier, le politologue chéri de ces dames dans les médias languedociens, quoi. Alors, premier petit débat, une petite mise en bouche avec le psychanalyste. Avant toute chose, moi j'aurais bien demandé au psychanalyste comment il définit cette notion qui est le vivre ensemble. Ça veut dire quoi pour un psychanalyste, le vivre ensemble? A priori, ça frise la tautologie, non? Vivre ensemble pour un psychanalyste.
Oui, alors d'abord, laissez-moi vous dire le plaisir que j'ai à vous retrouver, vous remercier une fois de plus de m'avoir invité. Je vais d'emblée corriger le tir de votre introduction.
C'était le but du jeu.
vous disiez tout à l'heure que les patients qui m'honoraient de leur visite, eh bien, ils venaient me voir pour que je les fasse entrer dans le rang. C'est rigoureusement l'inverse.
Je vous ai traité de freudien, non?
Oui.
Ils
n'ont pas à entrer dans le rang. Ils n'ont pas à se figer dans une identification quelconque à une norme ou à un idéal, mais à faire émerger, à assumer et à vivre selon la singularité de leur seul désir. Tout à fait différent.
Adler était-il lacanien?
Je ne sais pas ce qu'il était, mais enfin...
C'est pas loin, non?
Lacan a beaucoup subverti les postes freudiens. Donc, il n'est pas question de faire entrer dans le rang qui que ce soit. C'est tout le contraire. Alors, vivre ensemble, c'est une expression qui a quel âge? 1 an, 2 ans, 3 ans, un peu plus, je ne sais plus.
Au moins 40.
Enfin, pour mon oreille, elle est beaucoup plus récente.
D'accord.
Bon. C'est la preuve, cette expression, qu'une langue est particulièrement vivante. Elle se tord, elle évolue, il y a des expressions qui disparaissent, d'autres qui renaissent. Et c'est comme ça, finalement, qu'on en arrive à se vivre ensemble, dont on a fait un substantif, dont, en vérité, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire.
Est-ce que ça a c'est un comme... sens en psychanalyse, le vivre ensemble?
Est-ce que
ça a un sens en psychanalyse?
Ben, c'est ce que je suis en train de vous dire, cher ami. Non.
Non. Non, ça n'a pas de sens.
Bon, ça n'a pas de sens, sauf à déplier un petit peu les choses, quand même. C'est comme l'expression citoyen. Bon, on parlait du citoyen, on parlait de la citoyenne, mais on a maintenant, vous utilisiez vous-même dans votre introduction tout à l'heure, l'expression conduite citoyenne. On parle d'initiative citoyenne, on dit entreprise citoyenne. Bien. Alors, ce citoyen-citoyenne, on le colle un peu à tout. Et à partir du moment où c'est entrepris par un citoyen...
Et le mot asocial, est-ce qu'il a sa place dans le vocabulaire d'un psychanalyste?
Le mot?
Asocial.
Asocial?
Oui.
Non, pas vraiment. Il n'a pas plus sa place. Et encore moins le sociétal. Bon. Alors,
et le fait pour le psychanalyste que le patient apprenne à vivre avec lui-même, ensemble avec lui-même, ensemble avec l'image qu'il donne de lui au niveau de la société. Non, ça n'a pas de rapport, ça.
Allez, résumons ça d'une phrase.
Enfin, jusqu'où il n'est pas freudien.
On peut, on peut, on doit se respecter. Rien ne nous fait obligation de nous aimer.
Se respecter, donc avoir du respect, mais ça c'est presque la citoyenneté, le civisme, la civilité, presque le vivre ensemble. Ça,
c'est l'impératif du respect de ce qui fonde l'humanité de l'autre.
Vous ne croyez pas que pour respecter l'autre, encore faudrait-il qu'il soit respectable?
Oui, attendez, ça c'est autre chose. Mais il faut prendre la deuxième partie de ma phrase. On n'est pas obligé de l'aimer. Bon. C'est un vieux principe biblique d'ailleurs, qui recommande, tu respecteras ton père et ta mère, même si tu ne les aimes pas. Ça bat en brèche, de manière assez décisive, le tu aimeras ton prochain comme toi-même. sachant que la psychanalyse a démontré que l'amour s'inscrivait dans l'ordre de la contingence et pas de l'impératif.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que l'amour, c'est une rencontre. Et qu'en tout cas, ça ne saurait dépendre de ma seule volonté. Et donc, le « tu aimeras ton prochain », qu'est-ce que ça veut dire ? En quoi suis-je contraint d'aimer mon prochain ? Alors, vous l'avez rappelé tout à l'heure, et ça paraît tout à fait essentiel, le vivre ensemble suppose un préalable qui est, vous l'avez dit, le vivre avec soi. Et rien n'est plus difficile que de vivre en harmonie avec soi, parce qu'un être humain se définit comme conflictuel avec lui-même, contradictoire et paradoxal. Par le seul fait qu'il est parlant, il ne peut pas résoudre de manière définitive, stable et éternelle le conflit, le paradoxe et la contradiction. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le vivre ensemble traîne les termes de sympathie, d'empathie, d'antipathie, de condescendance. Il y a aussi les degrés de narcissisme, d'infatuation, de supériorité,
d'obligation,
de convenance, d'intérêt. Bon. C'est extrêmement complexe. C'est un alliage à plusieurs variantes qui fait la complexité de la chose. Donc il est déjà difficile de vivre en harmonie avec soi et de trouver à pacifier le caractère barbare de la jouissance qui continue de nous habiter. Et nous ne devons jamais oublier ce que Freud en a dit il y a très longtemps dans « Malaise de la civilisation », l'expression est en latin dans le texte « L'homme est un loup pour l'homme ». S'il peut user de son corps sans son assentiment, le faire travailler sans le rétribuer et le couper en morceaux, il y va. Et là, on ne peut pas dire que le 21e siècle nous ait démenti sur ce point. C'est comme ça depuis toujours. Bon, alors, il y a une arrière-pensée derrière tout ça. Derrière le vivre ensemble, il y a le racisme, la xénophobie, l'antisémitisme, l'expulsion des Roms, et je ne sais quoi encore.
Et le communautarisme qui en est une des résultantes, non ?
Le communautarisme, le populisme, la ségrégation, la discrimination. Que fait-on de cet autre, finalement, qui est si embarrassant ? C'est un symptôme constant de toute civilisation. Voilà ce qu'en introduction je peux vous dire et j'attends que mes collègues interviennent, débattent, contredisent pour relancer le débat.
Et les psychanalystes ont-ils vraiment tous la même vision ? Parce que quand même Freud, le principe de base, si je synthétise trop rapidement, c'est quand même de faire rentrer dans le rang les gens.
Non, c'est votre expression « rentrer dans le rang » que la psychanalyse va récuser.
Y compris les freudiens. Il n'y a pas qu'on dise ça d'eux.
Surtout les freudiens.
Il y a une notion de soin.
Non, vous savez, très longtemps...
Dès qu'on parle de soin, soigner, guérir,
oui.
À partir de ce moment-là, il y a obligatoirement...
Jean-François, le micro.
Ça sous-entend effectivement un ordre, une normalité. Enfin,
voilà, alors vous avez tout à fait raison. Je rentre de Paris où nous avons débattu au Palais des Congrès ce week-end au cours de nos journées annuelles de l'école sous le thème « Je viens pour ça, je viens pour guérir ». Et le sous-titre de ces journées était « Je demande une guérison, il n'est pas certain que je la désire ». Parce que les psychanalystes, justement depuis Freud et plus encore depuis Lacan, font une différence absolument radicale entre demande, désir et besoin. Ça n'a rien à voir. Ce que je demande n'est pas ce que je désire. Ce que je désire m'est insu, ce que je désire m'est inconnu, ce que je demande, je peux le désigner, mais il y a dans toute demande...
C'est ce dialogue entre le conscient et l'inconscient, c'est ça ?
Si, on peut le dire comme ça, mais c'est un raccourci.
C'est un raccourci, oui.
Voilà. Il ne peut pas y avoir d'identité entre l'objet que j'espère obtenir et l'objet que j'obtiens. Parce que l'identiquement identique n'existe pas. A est égal à A, A est semblable à A, mais A ne sera jamais identique à A. Bon. Donc c'est pour ça que le rentrer dans le rang ne fait pas le chou gras du psychanalyste. parce que il n'y a pas de rang.
Alors on y arrive, et puis justement, je souhaitais qu'on en arrive là. Donc, les psychanalystes sont les fauteurs de troubles du délitement du contrat social. Parce qu'en fait, quand vous arrivez à soigner ou à guérir quelqu'un, vous lui apprenez à surtout ne pas vivre ensemble, mais éventuellement à vivre avec lui.
Ben, il est clair qu'un sujet...
Si bien qu'un bon sujet bien traité, il se fout éperdument des autres une fois qu'il est guéri.
Non, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça, et il faut aussi que je vous dise un mot à propos de ce que vous avez dit tout à l'heure concernant le soin. Très longtemps, on a parlé de cure psychanalytique. Et la cure, cura curae, effectivement, c'est le soin, c'est le souci, et c'est aussi le curage, le curetage. Les lacaniens ont changé le mot. Ils ne parlent plus de cure, parce qu'il n'y a pas chez le psychanalyste un désir de guérir. Ils parlent d'expérience analytique. Et vous connaissez tous cette expression de Lacan qui disait « la guérison, quand elle survient de surcroît ». Parce qu'on ne sait pas ce que c'est que guérir en psychanalyse. On sait ce qu'est pacifier la jouissance d'un sujet qui, par cette jouissance même, laquelle n'est pas le plaisir, hein, entendons-nous bien là-dessus, entrave sa démarche, se met en travers de sa route, l'empêche de se réaliser, tarit sa créativité, annihile son désir, altère son rapport à autrui. Ça, oui. C'est d'ailleurs pour ça qu'un sujet vient nous voir. C'est parce que quelque chose l'empêche de vivre. C'est parce qu'il y a...
C'est pas tout simplement parce qu'il croit qu'il est malade. Étant donné que vous savez que vous n'êtes pas sûr de le guérir, donc du coup, vous dites que de toute façon, la guérison, ce serait juste un surplus
quand vous
au bout
dites,
du compte.
Quand vous dites maladie, quand vous dites guérison, vous êtes dans la dimension médicale. La psychanalyse n'a rien à voir avec le médical. Disons-le clairement, nous ne guérissons personne. Mais il se trouve qu'à faire une analyse, le regard que le sujet porte sur lui-même et sur les autres et sur le monde est différent.
C'est-à-dire que c'est le sujet qui se guérit lui-même par la parole.
Si vous voulez. C'est un raccourci tout à fait admissible.
Ce qui était avant par la confession.
Non, parce que la confession visait le bien et le mal. La confession visait l'identification à une norme. La confession faisait rentrer dans le rang. « Venez à moi, brebis égarées ». Il y a un ordre établi que nous avons élu comme étant le bon. Rejoignez-nous. Mmh. Bon, pas du tout. Psychanalyse, elle n'est pas de ce côté-là.
Alors, elle est de quel côté, alors, la psychanalyse ?
De la singularité.
Parce que comment faire pour que l'individu commence d'abord par s'accepter lui-même, par...
Oui, ben alors là, vous êtes en plein sur le chemin de l'expérience analytique, comme telle. Bon. Qu'est-ce qui peut entraver un individu ? Son rapport à lui-même et aux autres. Le regard qu'il a sur lui-même et sur le monde.
C'est, en fait, ils n'aiment pas, quoi. Enfin,
bon. Or, et là, je suis... Vous m'amenez tout doucement à introduire une notion que j'aurais voulu éviter.
Est-ce que je suis ce que je pense ?
Est-ce
que je suis ce que je pense ?
Il y a une exclusion interne entre les deux termes. Parce que, cher monsieur...
C'est une question.
Je suis...
Est-ce que je suis ce que je pense ?
Ça enflanque un sacré coup à notre ami Descartes. Je suis là où je ne pense pas. Et je pense là où je ne suis pas. Il faut accepter cette rupture. Il faut accepter cette béance. Il faut accepter ce trou... Il faut accepter ce trou qui est inviolable, qui est incomblable et qui est notre dette éternelle que nul jamais ne paye. Bon. Et c'est ce trou qui est le ressort même de notre désir en tant que ce désir, justement. Il est intarissable.
Et concrètement, ça fait quoi pour l'individu ? L'individu qui a un mal-être quelconque, qui ne s'aime pas, on peut prendre, je sais pas, un exemple comme ça, on voit qu'il est homosexuel, mais il ne s'accepte pas en tant qu'homosexuel. Bon. Et du coup, il vit mal avec lui, il vit mal avec les autres, en société, etc. Bon. Alors, la psychanalyse, elle a quand même pour but d'essayer de faire qu'il s'accepte lui en tant que tel, en tant qu'homosexuel, de façon à ce qu'il puisse mieux vivre avec lui et donc mieux vivre avec les autres. Alors, donc, quelque part, le faire rentrer dans le rang de la société.
Et non. D'abord, s'il est homosexuel et si c'est le choix de sa sexuation...
À ce moment-là, ce n'est pas un choix. Enfin, s'il s'accepte
non, non,
pas...
Non, cher ami, la sexuation, c'est un choix. Un choix inconscient,
d'accord.
Mais c'est un choix. Hein? Et c'est là, c'est le grand apport de Lacan par rapport à Freud. Où Freud avait enfermé la sexualité dans les seules coordonnées édipiennes et la question des identifications. C'est le rouge à lèvres de la petite fille et la cravate du petit garçon. Bien. Non, Lacan a montré que la question des identifications dans la sexualité ne tenait pas la route. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a des sujets homosexuels et parce qu'il y a des femmes phalliques. Donc, on est obligé d'être en rupture avec la question des identifications et en arriver au choix de la sexuation. Alors, si c'est un choix véritable, l'homosexualité, aucun psychanalyste ne sera mobilisé par le désir d'en faire un hétérosexuel, sous prétexte que l'hétérosexualité serait aujourd'hui promue comme une normalité. Par contre, la psychanalyste fera peut-être en sorte que ce sujet sera un homosexuel heureux, apaisé, qui assumera son choix.
Et que du coup, content de ce qu'il est, ira volontiers vers les autres et sera donc un individu plus sociable. Je reprends l'expression du renard, si l'asocial relevait quelque part de la psychanalyse, voilà. Et vous disiez non.
Mais entendons-nous bien, à partir du moment où le sujet va mieux, si j'ose dire, avec lui-même, il n'y a aucune raison pour que son rapport à autrui soit des plus conflictuels. C'est en cela que la psychanalyse rend un certain nombre de services. D'abord, parce que le sujet va assumer ce qu'il est. Bon, et ça, c'est une chose extrêmement difficile. Mais surtout, qu'est-ce qui est le plus difficile entre les êtres humains ? Depuis que le monde est monde, c'est quoi ? Le plus difficile, c'est d'être docile à la modalité de jouissance de son prochain.
Ça veut dire quoi concrètement, ça ?
Ben, ça veut dire que concrètement, la jouissance du seul fait d'établir un rapport entre son corps et le fait d'être parlant définit une modalité singulière de jouissance qui est irréductible. Et prétendre qu'avec des girls bien foutues et du Coca-Cola, on va modifier la civilisation irakienne, c'est délirant.
Alors là, on voit le politologue qui fronce les yeux. Là.
Voilà. Je veux dire par là que la psychanalyse conduit à ceci, que le sujet qui en a fait l'expérience apprend à être docile, et c'est très respectable d'être docile, à la jouissance de l'autre. Il ne cherche pas à le faire entrer dans un rang quelconque, à l'amener à jouir comme lui-même, à penser comme lui-même, à dire comme lui-même. C'est la raison pour laquelle il y a de psychanalyse au cas par cas. C'est-à-dire que
si je comprends bien, vous ne faites pas des citoyens, mais vous faites des semblables.
Semblables, c'est un mot un petit peu dangereux.
Ce sont des semblables, puisque vous avez dit tout à l'heure qu'effectivement, tout homme était... que tous les hommes...
Chaque être humain...
n'était pas...
Il y a 6 milliards d'individus sur Terre... Il y a 6 milliards d'exceptions.
Donc de semblables.
Oui.
C'est bien ce que je dis.
Mais ils n'ont de semblables que la communauté de leurs conditions et de leur destin.
Donc, effectivement, c'est la dernière question que je voulais vous poser. C'est que, effectivement, est-ce que le vivre ensemble, pour un psychanalyste, c'est l'hémisphère gauche du cerveau ou l'hémisphère droit? Quand on dit, c'est un raccourci, ça aussi. Ouais. Lorsqu'on dit qu'effectivement, le côté gauche, c'est le côté de l'affectif. Et le côté droit, disons, je dirais, celui de la raison, de l'utilité. Parce que dans le vivre ensemble, effectivement, il y a des notions aussi d'utilité, de besoin, enfin, de nécessité, je dirais. Alors qu'il y a aussi l'autre aspect du vivre ensemble qui peut être celui-là, qui est considéré par certains beaucoup plus noble, qui est celui de l'affectif, de la relation, de l'amour partagé, de l'empathie, sympathie, etc. Donc, voilà, je vous pose cette question en tant que psychanalyste. À votre avis, ça se passe plus le vivre ensemble est plus du côté droit ou du côté gauche ?
Aucun.
Aucun des deux.
Alors, écoutez, je vois très bien ce à quoi vous faites allusion. Il n'y a pas très très longtemps, un radiologue de mes amis m'a dit « Maintenant, avec la résonance magnétique nucléaire, on peut isoler dans le cerveau l'état amoureux. » Parce qu'il y a une zone très précise dans l'état amoureux qui se met en surbrillance. Et ça m'a fait rire. Et comme c'est un ami, il a bien accepté que je ris. Il a compris que ce n'était pas de la dérision, mais que ça m'a fait rire. Il m'a dit, mais pourquoi ris-tu ? Je dis, parce que la surbrillance ne me dit pas pourquoi j'ai choisi cette fille plutôt que telle autre. Et ça, il n'y aura jamais de surbrillance. Donc, à partir du moment où on veut réduire l'être humain à une machine, à une surbrillance, à un neurotransmetteur, à un neurone, on est à côté de la plaque.
Alors, on va avoir le point de vue du politologue, du sociologue.
C'est pas le point de vue.
C'est ce que vient de dire le psychanalyste.
C'est pas Emmanuel Légrier. C'est pas le point de vue 2. C'est. Alors, j'ai deux questions. La première, c'est. Je reprends ce que vous avez dit au départ sur vivre avec soi-même, c'est vivre selon la singularité de son propre désir. Et la question est quelle part occupe l'autre dans ce désir ? Est-ce qu'on peut désirer seul ? Donc ça, c'est la première question. Et surtout la deuxième, je dirais, dans votre propos jusqu'à présent, il y a l'impression que finalement, tout ce que vous avez dit peut se rapporter au 19e siècle, au 20e siècle, avant la Deuxième Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale, au 21e siècle. Est-ce que vous portez un jugement spécifique sur cette question-là aujourd'hui ? Autrement dit, est-ce que cette question-là, la singularité de son propre désir, est-ce qu'elle s'articule de la même manière dans les années 50, dans les années 80 et aujourd'hui ? Est-ce qu'il n'y a pas une historicité de votre propos qui appelle un jugement de votre part sur la société contemporaine ?
La singularité du désir n'a pas d'âge. Elle est transtemporelle.
Elle peut avoir une histoire.
Elle a une histoire, elle a une coloration. Elle a une coloration en fonction des époques. Elle a une teneur. Elle a une forme. Elle prend un visage. Mais elle n'a pas d'âge. Parce qu'elle est imputable à notre condition et que cette condition, elle est sans âge. Mais votre première question était peut-il désirer seul ? Bien sûr que non. N'oubliez pas cet aphorisme de Lacan qui est « Le désir de l'homme, c'est le désir de l'autre. » Et qu'il écrit avec un grand A. Dans toute une première partie de son enseignement, ce grand autre, avec un grand A, c'était, dans la définition de Lacan, le trésor des signifiants, le lieu de la parole et du langage. Deuxième partie de l'enseignement, il met un trait sur ce grand A. Pourquoi ? En disant que ce grand A est troué. Parce qu'il manquera toujours le mot pour dire la chose. Dernière partie de l'enseignement, il dit ce grand A, c'est le corps. Alors, le désir de l'autre, transformez la phrase. Le désir de l'homme, c'est le désir de l'autre. Le désir de l'homme, c'est le désir de l'autre barré. Le désir de l'homme, c'est le désir du corps. On dit, mais alors, qu'est-ce que c'est que le corps ? Et Lacan vous répond, c'est la somme des fonctions. Qu'est-ce que c'est que l'âme ? C'est la somme des fonctions du corps. Et il ajoute, et on ne peut pas faire la somme. Donc, le désir qui m'habite, paradoxalement, m'est étranger. Pourquoi ? Parce que m'étant mis un jour à parler, la parole est venue faire effraction dans mon unité mythique d'infance, celui qui ne parle pas encore, et m'a exilé de mon propre corps. Je suis déchiré de moi-même par le fait que je parle. Résultat des courses, je vais passer ma vie à réunir les morceaux. C'est ce qu'on appelle la jouissance.
Alors, pour qu'on ait bien le temps de bien faire nos trois tables rondes, On va faire une petite pause musicale, on va passer au sociologue, et puis Patrick Tacussel, en entrée, avant qu'on pose quelques questions que ce soit, pourra répondre à Marc Lévy au niveau de la psychanalyse. Et de façon à rentrer dans la sociologie, ben, je vous propose au moins un extrait de Renaud et son morceau, son vieux morceau, « Dans mon HLM ». Retour dans nos studios pour la deuxième partie d'émission, le débat, cette fois-ci le menu, avec, avec le sociologue Patrick Tacussel. Bon, avant qu'on passe à des questions, je vais dire peut-être stricto sensu de sociologie, je voulais vous redonner la parole par rapport à ce qui avait été dit par Marc Lévy, le psychanalyste, parce que vous n'avez pas eu le temps de réagir dans la première partie.
Non, mais je trouve c'est tout à fait passionnant la perspective analytique, mais... Donc, disons que moi, il y a deux éléments bon, qui seraient des éléments de divergence. Affirmer que la singularité du désir n'a pas d'âge, on peut en convenir, mais la question n'est pas qu'elle soit transhistorique, mais ce qui importe, c'est les modalités d'extériorisation de ce désir. Or là, elles sont évidemment historisées, elles appartiennent à un contexte social, culturel, etc. Je prendrai qu'un seul exemple. Les discussions que l'on peut avoir aujourd'hui sur la notion de l'honneur, des crimes d'honneur, qui reviennent sur l'actualité dans un certain nombre de pays, précisément en liaison avec le communautarisme, montrent que c'est la manifestation dans le vivre ensemble de ce qui peut être le caractère irréductible du désir qui vient affronter les normes sociales, culturelles, etc. L'autre aspect qui m'a à la fois intéressé et qui met un peu une sorte de non pas de divergence, mais je préfère dire d'un autre regard, c'est que effectivement, si on est toujours l'autre pour l'autre, on ne l'est pas dans n'importe quelle circonstance. Et ces circonstances ne sont pas le rapport entre soi-même et un autre, Et j'entends bien, Paul Ricoeur avait longuement développé d'ailleurs cette problématique, mais je pense qu'elle est liée également au fait qu'on est l'autre de l'autre dans des circonstances où interviennent des éléments comme la confiance, par exemple, comme la convivialité, etc. Dans une société où le sentiment d'insécurité, par exemple, ou au contraire, les failles qui pourraient y avoir dans ce domaine interviennent, le désir de rencontrer l'autre vont s'en trouver, vous en conviendrez, affecté. On va plus facilement vers l'autre, et l'autre en nous-mêmes, que l'on a le sentiment que le risque de la déchirure, hein, ou de la blessure sera faible. Dans une société où est entretenue, et vous l'avez souligné à juste titre, la peur de l'autre, où l'autre est situé dans son hostilité radicale, ça ne peut pas réagir sur, excusez-moi, la mentalité collective, etc. Et le rapport à l'autre s'en trouve effectivement, non pas sur le plaisir ou le désir de connaître l'autre, mais sur la peur de le rencontrer. Et je terminerai là-dessus, parce que bon, j'ai beaucoup étudié l'œuvre de Fourier, dont je suis un spécialiste, et il le montre bien. Rencontrer l'autre, ça suppose que cet autre entre aussi dans la scène commune, dans le bien commun. Si il en est expulsé symboliquement, ou j'allais dire d'une autre façon, cela rejaillit effectivement sur le rapport à l'autre. Je crois que c'est un des problèmes fondamentaux de nos sociétés. Les profanations régulières de cimetières, etc., montrent que ne pas reconnaître celui qui disparaît comme membre du monde de la réciprocité, c'est éteindre la réciprocité. Je ne sais pas ce qu'en pense mon collègue et ami politéologue, mais c'est une rupture du contrat social dans ses formes les plus radicales. Là où je renverse la tombe de celui qui vivait avec moi, là où je la profane, j'interdis effectivement à tous ceux qui ont la mémoire du vivre ensemble de pouvoir le perpétuer. C'est quelque chose d'extrêmement grave et qui, à mon avis, mériterait actuellement une réflexion approfondie, non seulement des pouvoirs publics, etc., mais une réflexion anthropologique de fond.
Ah, moi, je crois bien comprendre que le vivre ensemble, c'est vraiment... on croirait que c'est une notion tirée tout droit d'un manuel de sociologie, quoi. Le psychanalyste nous a dit, en gros, c'est pas mon sujet, quoi. Alors que le sociologue, en disant que là, on est en plein dedans. Dans le ensemble, il y a les autres, et donc vivre avec eux relève vraiment de la sociologie. Alors, c'est quoi? Est-ce que le sociologue pourrait définir, en une phrase courte, ça veut dire quoi? C'est quoi le vivre ensemble?
Là, je pense qu'il n'y a pas une définition propre à toute la sociologie. La sociologie est constituée de plusieurs écoles, de plusieurs manières de l'aborder. Moi, je pense qu'il y a au moins un élément qui est essentiel, c'est que vivre ensemble, Auguste Comte, qui est l'inventeur du mot sociologie, qui est natif de notre ville, parlait de l'accord des esprits. Alors, l'accord des esprits, ça ne veut pas dire qu'on va partager la même manière de manger, de boire, etc., etc. Mais il supposait que dans ce qu'il appelait la chaîne des générations, des langages communs puissent permettre à des individus de transmettre aux générations plus futures plus qu'ils n'avaient reçu. Vous voyez, on est dans un schéma qui est le progressisme positiviste.
C'est presque le vivre ensemble durable, presque.
Pardon.
C'est presque le vivre ensemble durable.
Exactement. C'était en quelque sorte mettre le milieu social comme le point d'ancrage de toutes les, non seulement des valeurs et des normes, mais également, et j'y reviens parce que c'est pour ça que j'ai à dessein que j'ai employé l'histoire de la profanation des cimetières. Les pratiques symboliques, c'est-à-dire que dans une société, il n'y a pas que de l'utilité réciproque. Notre société ne fonctionne pas uniquement sur un modèle smithien où on échange, etc. Ce n'est pas simplement l'ère du mercantile et du calculable. Il y a aussi des choses qui sont échangées, qui sont des biens spirituels, des visions du monde, etc. Et ce qui pose problème, sans doute, dans la société dans laquelle nous vivons, c'est que les repères sur lesquels nous avons fonctionné pendant un certain nombre d'années, sont fracturés. Ils sont fracturés de multiples manières. Et nous n'avons pas aujourd'hui ni les mots pour accompagner la compréhension de cette fracture, et moins encore la capacité d'éclaircir toutes les ruptures symboliques qui sont à l'œuvre. Alors on pourrait prendre toutes les institutions, l'école, l'hôpital, les repas à la cantine, on pourrait prendre, etc., toute une série de
justement,
choses. Le rapport entre la ville et la campagne.
On va essayer d'être un tout petit peu cartésien, de traiter un peu les choses.
Est-ce que le pluriel n'est pas nécessaire, là ?
Et au sein de la famille, par exemple, est-ce que ça a un sens, encore aujourd'hui, de parler de vivre ensemble dans le cadre de la famille, sachant que la famille, maintenant, elle est éclatée, recomposée, etc. Est-ce que ça a encore un sens, au niveau de la famille, pour un sociologue ?
La famille, elle est prise dans les contextes de son évolution historique. On ne va pas parler de la famille d'aujourd'hui, comme ça, à l'époque où Le Play en parlait, qui était le premier sociologue de la famille. Il avait travaillé sur les familles souches, etc.
Oui, non, mais aujourd'hui, véritablement, on voit des enfants qui mettent des parents en procès, des parents qui mettent leurs enfants en procès. Est-ce qu'il y a encore vraiment du vivre ensemble là-dedans, quoi ?
Est-ce qu'on doit parler du vivre ensemble, ou est-ce que c'est justement, on regarde ce que vous venez de dire, si c'est pas une succession de... S'il ne faut pas le dire au pluriel, les vivre ensemble, non. Selon effectivement l'espace, le temps...
Revenons à des choses concrètes. Notre société, elle est tendue par un certain nombre d'éléments. Elle est dans des contradictions. Les sociétés du passé étaient... On dit les parents mettent les enfants mettent les parents devant les tribunaux. Mais regardez la comédie humaine ou regardez un certain nombre de classiques et vous verrez des formes également de violence interne.
C'est pas nouveau pour vous.
Non, c'est pas du tout nouveau. Ce qui est nouveau, c'est la façon dont c'est traduit aujourd'hui dans l'espace public pour toute une série de raisons. Mais vipère au poing. Enfin, on pourrait prendre toute une série de d'ouvrages, etc. Alors l'autre élément, c'est que nous évoluons aujourd'hui dans une société où les modèles formateurs qui ont accompagné la modernité, avec un certain nombre d'éléments structurants qui étaient tout à fait repérés, aujourd'hui ne fonctionnent plus, ou en tout cas sont très relâchés. Alors parmi lesquels, moi je ne vais pas empiéter sur l'analyse de mon collègue politologue. Bon, il y a la définition du contrat social. La question de savoir, ça a été très bien étudié en sociologie par Simmel, etc. L'étranger, qu'est-ce que l'étranger ? Le monde des sans-papiers, c'est une expression qu'avait employée Hannah Arendt en son temps.
Là, on est dans le politologue, là, plus etc. que dans le...
Donc, oui, non. On est dans le politologue quand on le traite sur le plan des sciences politiques. On est dans la sociologie lorsqu'on le traite sur... Quel est le regard que je vais porter sur l'autre dans des conditions de dignité acceptables pour le vivre ensemble ? Et pourquoi ça ne fonctionne pas ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il en est ? Qu'est-ce qu'il en est, par exemple, de la télémédiatisation de la violence, de la peur, de l'insécurité ? Or, toutes ces questions sont ensuite intériorisées par des sujets. Et là, je me sépare, évidemment, de la psychanalyse, auquel j'accorde tout à fait un grand intérêt, c'est que cette intériorisation n'est pas simplement individuelle. Elle participe de groupes socioculturels, c'est-à-dire que la façon de percevoir la violence, elle est fonction aussi de la culture que l'on a, de l'éducation que l'on a reçue, de celle que l'on va donner, etc. Moi, mes enfants, quand ils regardent une émission de télévision où on leur présente des situations de violence, ils ont un relais à la maison pour leur dire... leur donner les codes de décryptage, pourquoi on en parle aujourd'hui, etc. etc. Évidemment, dans d'autres foyers, ça se passe différemment, etc. Ça se passe aussi différemment à la ville et à la campagne, etc.
Donc à la campagne, est-ce qu'il y a encore cette notion du vivre ensemble ? Parce qu'à la campagne, avant, c'est vraiment chez les paysans.
Vous voulez me faire parler de tout, là.
Il y avait cette notion d'entraide. Le paysan qui était malade, et aussitôt, il y avait le collègue d'à côté qui allait lui faire les vendanges ou lui faire les moissons. Et ça, il semblerait bien quand même que ça se pratique de moins en moins.
Ben, c'est bien la différence qu'il y a entre une solidarité qui se veut être décrétée et celle qui jaillit de l'humain et de son humanité. Je voudrais revenir sur un point, si vous me le permettez.
Je vous en prie.
Peut-être pas un, peut-être deux. Je reviens sur la notion d'étranger. Chaque être humain est étranger à lui-même.
On est assez d'accord là-dessus. On
commence par ça. Le deuxième point, qui alors lui me paraît tout à fait intéressant, c'est les repères sont fracturés. L'expression que vous avez utilisée à l'instant me paraît lumineuse.
Je vous remercie.
Qu'est-ce qui caractérise notre temps ? Nous avons perdu le principe organisateur. Quel a été jusque-là le principe organisateur ? Le nom du Père. C'est-à-dire une organisation hiérarchisée, verticalisée. Or, nous sommes passés d'une organisation verticale à une fraternité horizontale qui fait que tout un chacun est apparemment équivalent à l'autre, qui fait que, à l'intérieur d'un service hospitalier, par exemple, l'infirmière...
Mais ça se trouve dans la famille recomposée. L'infirmière
tutoie l'interne qui tutoie le chef de service.
Qu'on retrouve à l'école aussi.
Bien. Donc,
c'est une équivalence qui n'est pas forcément fraternelle.
Et qui n'est pas, mais nous sommes dans une horizontalité. Bien. C'est-à-dire que nous n'avons plus cette horde hiérarchique que mai 68 a largement contribué à battre en brèche. Les psychanalystes utilisent un autre vocabulaire. Ils disent que nous sommes confrontés à la faillite du nom du Père. Bien. Or, le nom du Père est un des éléments, ça a été remarquablement démontré et étudié par Lacan dans son tout dernier enseignement, qui permet aux trois instances qui caractérisent la fonction psychique humaine, qui caractérisent la réalité humaine, le symbolique, lieu de la parole, l'imaginaire, la représentation et le corps, le réel qui n'appartient ni à l'un ni à l'autre, mais qui est dans chacun des deux autres, c'est-à-dire ce que je ne peux pas dire et ce que je ne peux pas me représenter, que la tradition biblique a appelé Dieu, puisqu'il est sans image et sans nom, eh bien ces trois instances, elles sont nouées borroméennement, mais à la condition qu'il y en ait une quatrième qui l'est, nous, indéfectiblement. Et ce quatrième nœud, destiné à ce que les trois autres ne foutent pas le camp, c'était le nom du Père.
Là, je me sépare un peu de cette analyse, que je trouve effectivement tout à fait dans la logique, ou en tout cas dans la cohérence analytique. Souffrez que la sociologie se situe sur une perspective, à partir d'une perspective qui est un peu différente. C'est que si l'autorité, effectivement, peut s'incarner symboliquement dans le nom du Père, elle n'est pas nécessairement... est strictement associé à cette verticalité symbolique. Mais bon, c'est un autre problème. Je reviens sur l'histoire du village et de la campagne, parce que c'est important. Je crois qu'il existe, alors bon, ça serait assez intéressant de le vérifier, mais je crois que les formes de solidarité sont également plurielles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas... Le paradoxe de notre société, c'est que c'est une société où le compassionnel joue un rôle très 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 important, où les modalités de consolation, par le biais des jeux, des opérations humanitaires, on est plus dans une société de consolation, comme j'ai eu l'occasion de l'écrire, que dans une société de consommation. C'est-à-dire qu'on va essayer de demander à la collectivité, au commun, que ce soit télévisuel, planétaire, on l'a vu avec Haïti, avec d'autres choses, de récupérer en quelque sorte ce qui nous échappe et la menace qui nous guette. En ce qui concerne le monde de la campagne ou du village, moi j'observe une chose, et ce n'est pas mon collègue politologue qui va me démentir, c'est que je regardais régulièrement les émissions après les élections, les commentaires, etc. Et on voit qu'effectivement, il existe... des particularités extrêmement fortes, des lieux où, en quelque sorte, des choses continuent à être entretenues au-delà de l'effet, d'indifférenciation ou d'atomisation de la société. On est en quelque sorte tendu entre un désir du collectif, du commun, et des formes d'individualisation extrêmement poussées. C'est-à-dire qu'on est dans une société... où les formes de générosité peuvent être absolument extraordinaires. On n'a qu'à voir les chaînes de solidarité pour, dans un quartier ou dans un village, aider un enfant malade à être opéré outre-Atlantique, etc. et également des formes d'indifférence extraordinairement fortes que l'on a connues lors de la canicule avec des personnes âgées qui, sur le palier d'en face, décédaient, alors que les mêmes personnes avaient donné de l'argent dans une campagne de télécompassion, etc. Donc on est dans une société où les nouvelles contradictions du lien social sont en train de prendre... Je donnerai un dernier exemple qui est d'actualité, puisque actuellement on parle beaucoup de la mobilisation des jeunes, des lycéens, etc. Moi, je suis très, très, très intéressé de voir que le lien social existe par toute une série de choses, les SMS, etc. Par exemple, les lycéens communiquent. Moi, je vois mon fils, il reçoit des SMS, qui est en classe de seconde, sur tout ce qui se passe dans l'actualité. Il y a le lien social existe, il n'y a pas que la différence. Et c'est je veux dire, cette contradiction de la société contemporaine sur laquelle il faut arriver à trouver des mots. Alors, pour conclure, je dirais qu'il y a plusieurs pistes. La première, effectivement, est d'essayer de voir comment... on a parlé de communauté de destin, vous avez employé l'expression, c'était une expression du sociologue Karl Mannheim. C'est de voir quelle est la place des utopies. Et là, excusez-moi, je presse pour moi un peu pour ma perspective. Quelle est la place des utopies, des visions du monde qui sont véhiculées aujourd'hui? Parce qu'il y a, y compris dans la conscience collective, intergénérationnelle, des visions du monde qui, en quelque sorte, prennent le contre-pied des formes de résignation que l'on rencontre aujourd'hui. Donc elles sont peut-être moins visibles, en tout cas moins constituées comme des corpus de doctrine tels que l'étaient les utopies du XIXe siècle. Mais il y a effectivement un affrontement au réel, pour le coup, qui passe par toute une série d'éléments qui seraient, à mon avis, urgents d'identifier et qui vont dessiner les paysages politiques de demain. Alors aujourd'hui, ils sont sans doute un peu anomiques, mais peut-être demain, ils seront canoniques, vous voyez, le passage de l'un à l'autre. Et c'est dans la génération aujourd'hui émergente que l'on peut les repérer. Alors il y a certaines choses qu'on arrive assez bien à voir. Le sentiment par rapport à l'écologie, ce qui est de l'ordre de la proximité du lointain, ce qui est de l'ordre du care, de la souffrance, c'est devenu un thème aujourd'hui tout à fait important, puisque... un responsable politique a dit que ça serait un élément important.
Apporté des États-Unis, le Caire.
Non, en France, il y a aussi des gens qui réfléchissent là-dessus, Sandra Lautier, etc. Non. Et donc il va y avoir effectivement toute une série de choses qui vont reposer la question de qu'est-ce que c'est que la dignité dans le monde sorti de la modernité, puisque moi je pense qu'on est sorti de la modernité à bien des égards, je dirais post-moderne ou autre chose, mais dans ce monde-là vont se redéfinir également les nouvelles manières de contester, les nouvelles manières de... Vous voyez, vous avez parlé de mai 68, mais je pense que la contestation ou la recherche utopique d'autres formes de vie va passer dans le monde qui est en train de se dessiner par des choses tout à fait différentes. Le monde de Guattari parlait des rhizomes, etc., ça va être quelque chose d'important. Et quant à les identifications, elles vont être multiples, c'est-à-dire que on peut être à la fois ceci et cela, on peut avoir également un rapport à la réalité qui est multiple, parce que la réalité, elle est elle-même multiple. Alors, ne serait-ce que par l'impact des nouveaux moyens de communication, de l'intervention en temps réel, etc. Donc on est le paysage est aujourd'hui en train de se redessiner. Alors si on est pessimiste, on pourrait dire ben on passe de ce qui était la scène de la vie commune à son obscénité. Et là, elle ne manque pas hein, l'obscénité, j'allais dire dans tous les domaines. Parfois on entend ou on voit des choses sur les écrans qu'on aimerait ne jamais voir et ne jamais entendre, ne jamais avoir vu. Et d'un autre côté, on peut aussi faire un autre pari, et moi c'est un peu celui qui est le mien, c'est de dire, à travers toutes ces conditions, toutes ces contraintes, etc., va se dessiner quelque chose. Il n'y a pas que de l'assignation à résidence, il n'y a pas que de l'assignation à identité définitive, il y a aussi du pluriel qui se joue, Et on le voit, par exemple, sur toute une série d'éléments. Tout à l'heure, j'ai parlé de la question de l'honneur, des crimes d'honneur, mais il y a aussi des formes de résistance interstitielle, etc. Le lien social, il n'est pas noué une fois pour toutes.
On voit bien ce qui nous différencie.
Est-ce qu'il nous rapproche quand même
Si on résume un petit peu, bon, le psychanalyste nous a dit tout à l'heure que le vivre ensemble, en gros, ne le concernait pas tout à fait.
Je prends un exemple, celui cité tout à l'heure par notre éminent collègue sociologue, celui de la famille. La famille, c'est une notion culturelle. Certes, une entité sociologique. Mais il n'y a pas de famille. Il y a des gens qui s'adoptent ou pas.
Ça, c'est presque post-68 art, ça. Yeah. Une vision.
Nous sommes tous
post-moderne de la famille.
Sans être passés par la DAS et les assistantes sociales, nous sommes tous ou non des enfants adoptés.
Les anthropologues et ceux vous diront pas la même chose.
On va faire une petite pause musicale avant de passer à notre troisième débat avec Emmanuel Légrier, notre politologue. Un petit morceau de Brassens, vite fait, que vous connaissez sûrement bien. Quand on est con, on est con.
Quand ils sont tout neufs, qu'ils sortent de l'œuf, du cocon, tous les jeunes blancs becs prennent les vieux mecs pour des cons. Quand ils sont devenus des têtes chenues, des grisons, tous les vieux fourneaux prennent les genoux pour des cons. Moi qui balance entre deux âges, je leur adresse à tous un message. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père, quand on est con, on est con. Entre vous, plus de controverses, con caduc ou con débutant. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Les cons naissants, les cons innocents, les jeunes cons, qui ne le niaient pas, prenez les papas pour des cons. Vous les cons âgés, les cons usagés, les vieux cons, qui confessez-le, prenez les petits bleus pour des cons. Méditez l'impartial message d'un qui balance entre deux âges. Le temps ne fait rien à l'affaire, quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père, quand on est con. Entre vous, plus de controverses, con caduc ou con débutant. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan.
Bon, eh bien, retour dans nos studios pour la dernière partie, petit débat de proboscopie sur cette question du vivre ensemble avec notre psychanalyste Marc Lévy, notre sociologue Patrick Tatucel, et puis maintenant notre politologue Emmanuel Légrier. Alors, le politologue, lui, comment est-ce qu'il aborde la question du vivre ensemble? Quel concept il met en œuvre? On a compris un peu
alors,
sur le psychanalyste et le sociologue, mais alors, politologue, lui.
Alors d'abord, je vais vous dire merci de m'avoir accueilli à ce débat. J'apprends beaucoup de choses. Et j'ai appris tout à l'heure, en écoutant Marc Lévy, que finalement, entre la psychanalyse et la politique, il pouvait y avoir des points de convergence ou des modalités même de présentation des choses assez convergentes, puisqu'il a indiqué tout à l'heure que finalement, ce qui... Alors je vais sans doute dire des brutalités sur le plan des mots que je vais employer, mais... que le désir, au désir succède la parole, et donc l'incapacité ensuite d'être unitaire, unifié, et qu'on passe sa vie à recoller des morceaux. Finalement, quand on suit la définition de la démocratie de Claude Lefort, qui est mort il y a une semaine maintenant, on l'entend nous dire, on est passé d'une métaphore organique de la société avec le monarque qui représente tout cet ensemble cohérent, à la démocratie. Et la démocratie, qu'est-ce que c'est? C'est finalement une vie passée et plusieurs vies passées à recoller les morceaux, à essayer de réguler la fragmentation qui est liée à la disparition de cette incarnation même de l'autorité, de la vie sociale organique. Et pour moi, le vivre ensemble, d'un point de vue politique, c'est s'opposer. C'est l'acceptation et la régulation du conflit. C'est-à-dire la définition strictement inverse de celle d'Auguste Comte de tout à l'heure. L'accord dont parlait Patrick Tacussel, l'accord des esprits. Finalement, la politique, c'est la reconnaissance d'une nécessité de s'opposer. Et c'est précisément cette nécessité de s'opposer qui est en crise aujourd'hui.
C'est là où vous êtes peut-être pas tout à fait d'accord, mais relativement proche, le psychanalyste et le politologue. Parce que ni l'un ni l'autre n'avait prononcé ce mot, mais pourtant je le sens dans votre esprit, ce mot-là, tous les deux, ce terme de tolérance. C'est à partir du moment où il y a cette notion de tolérance qui apparaît, on va dire à partir du XVIe siècle, que l'idée de politique au sens moderne du terme apparaît, c'est-à-dire avec cette possibilité légale, au-delà du légitime, de s'opposer, ou je me trompe. Parce que ça ne va pas avec la tolérance, votre idée. Quoi.
Vous savez, la politique naît bien avant. Pour Castoriadis, la politique, pour d'autres aussi, la politique naît à Athènes. Mais c'est parce qu'on a des définitions de la politique, comme de l'identité, comme de l'individu, etc., qui sont différentes les unes des autres. La définition de la politique, ça peut être la substance même du débat, c'est-à-dire la capacité de délibérer des choses en commun. Et ça, ça naît au moins avec Aristote, pour autant qu'on le sache.
Est-ce que chez le politologue, il ne pourrait pas y avoir une définition a minima du vivre ensemble, qui rejoindrait peut-être quelques esprits au niveau de juristes? Est-ce qu'on ne pourrait pas réduire le vivre ensemble à quelques règles simples, telles que coexister, cohabiter, collaborer avec les autres? Et ce, de façon juridique. Et donc, on dit, ah, bon, à partir de là, ça, c'est du vivre ensemble. Et au-delà de ça, ce n'est plus du vivre ensemble. Pour vraiment coexister, cohabiter, collaborer.
Je serais un petit peu plus dialectique que ça, puisqu'on n'est que dans le co dans vos propositions.
Oui. Délibérément, oui, puisque le vivre ensemble.
Mais je pense que le co ne va pas sans le contre. La politique, c'est l'association de deux principes contradictoires, l'acceptation de l'autrui, d'autres, au pluriel, et en même temps la capacité de discuter avec eux des choses qu'on a en commun.
Pour revenir à
la discussion, elle n'est jamais simple, parce qu'elle est toujours sous-tendue par un conflit qui n'est pas qu'un conflit d'intérêts, qui est aussi un conflit de symbolisation, qui est aussi un conflit de représentation.
Oui, alors excusez-moi, monsieur Lévy, mais justement, je voulais faire référence à vos propos par rapport à ce que vous avez. Par rapport aux fractures sociétales. Enfin, vous avez fait référence à verticalité et à l'horizontalité. Et est-ce que le vivre ensemble, est-ce que justement, il n'y a pas eu une autre perception pour se poser la question comme ça, est-ce que par exemple la démocratie et les progrès de la démocratie, et lorsqu'on parle aujourd'hui, même y compris de démocratie participative, qui font dans tous les aspects, disons, de la société, au sein de l'entreprise, au sein d'un quartier, un petit peu partout, est-ce que justement c'est pas l'expression de cette horizontalité et qui change effectivement, ou qui est en train de modeler tous les esprits, en quelque sorte, et qui, effectivement, pose aujourd'hui les questions comme on pouvait ne pas se les poser, disons, il y a quelques siècles passés.
Et pour aller au bout de la question, si la démocratie était vraiment l'horizontalité, la République pourrait être la verticalité, est-ce qu'il n'y aurait pas justement ce problème de remise en cause d'un modèle républicain, notamment en France, qui ferait que le vivre ensemble aurait des problèmes, et que le problème ne serait pas tant démocratique, mais beaucoup plus républicain.
Oui, alors, je voulais dire à notre collègue politologue qu'il m'a enchanté.
Oh.
Je vous ai trouvé bergsonien.
Je vous ai fait rire, quoi.
Non, vous m'avez enchanté. Vous allez voir pourquoi. Je vous ai trouvé bergsonien qui disait La conscience, c'est ce qui s'oppose aux autres consciences. Je vous ai trouvé heideggerien, puisque Heidegger, dans quel, qu'appelle-t-on penser, disait « penser, c'est d'abord dire non ». Et je vous ai trouvé lacanien, figurez-vous, parce que Lacan disait « l'inconscient, c'est le politique ».
Vous avez toutes les qualités, hein, j'observe.
Là, c'est pas pareil.
Bon.
Là, c'est pas pareil. Mais si on en revient à cette... Horizontalité, verticalité, la démocratie de la République, est-ce que, en fait, c'est pas le problème, remise en cause du modèle républicain qui fait que le vivre ensemble battrait de l'aile en France?
Alors, le vivre ensemble, il bat de l'aile pour des tas de raisons. La première... j'aime pas tellement l'opposition entre l'horizontal et le vertical. Je pense qu'on est plutôt dans des logiques concentriques. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je préfère penser. C'est-à-dire que on est tous en référence à des échelles extrêmement différentes du vivre ensemble en fonction de ce à quoi on se réfère. La démocratie participative se réfère plutôt à une échelle de proximité géographique, physique. L'élection municipale se réfère à un autre niveau de vivre ensemble, le niveau national aussi, etc. etc. Ici, nous avons un premier niveau de désarroi, qui est celui que signalait d'ailleurs Norbert Elias déjà. C'est-à-dire que quand, historiquement, on arrive à s'identifier à peu près une échelle sur laquelle on maîtrise à peu près les codes, on va voter, etc., cette échelle se défile en général. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en est encore à penser national et à voir la vie politique structurée à l'échelle nationale et structurée de manière relativement convenable, droite-gauche, hein, même si c'est complètement artificiel, même si il y en a qui rêvent de gouverner autrement sans tenir compte de cette opposition-là. Mais le problème, c'est que à ce repère à peu près commun s'opposent aujourd'hui d'autres formes de pouvoir qui sont à des échelles différentes, ne serait-ce que l'échelle européenne, par exemple, sur laquelle il est extrêmement difficile de se prononcer, mais à l'échelle des interdépendances mondiales. Donc le désarroi, il est dans les contradictions qui existent entre les échelles d'identification politique et les échelles d'interdépendance socio-économique, voire même imaginaire, d'ailleurs. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la pénétration, me semble-t-il, de logiques concurrentielles, de néolibéralisation de l'intime. Et là, il me semble qu'il y a une capacité assez destructrice de cette tendance-là, dans la mesure où, évidemment, personne n'est en mesure de prouver que chacun a les mêmes capacités de jouer dans cette concurrence. Autrement dit, la néolibéralisation des esprits, et pas simplement des politiques publiques ou des marchés, etc., hein, mais des esprits, c'est quelque chose qui est un dissolvant à l'égard d'identification collective porteuse de politique. Donc ça, il me semble qu'on est bien dans cette difficulté-là. Et je dirais que dans la première partie de cette discussion, on a un peu évoqué le malaise de l'individu d'un point de vue psychanalytique. La société, deuxième partie, ne s'en porte pas mieux. Il n'y a pas de raison que la politique s'en sorte très bien.
Hein, alors qu'est-ce qu'un homme, une femme politique engagée dans la cité? D'après vous, qu'est-ce qu'il peut faire pour favoriser le vivre ensemble? Ou peut-il y faire quelque chose? Parce qu'en fait, après tout, le rôle d'un politique, d'un élu, c'est de faire que le vivre ensemble se passe le mieux possible. Et alors, d'après ce qu'on vient d'entendre, entre le psychanalyste, le sociologue, puis vous maintenant, c'est foutu, quoi. Alors, l'homme ou la femme politique...
Non, parce que, si vous voulez, Marc Lévy, tout à l'heure, a dit « l'homme est un loup pour l'homme ». Aristote dirait « l'homme est un animal politique ». Et la vérité se trouve sans doute entre les deux. Et la place de l'homme politique ou de la femme politique, c'est de jongler avec les deux, de ne pas se satisfaire de ce que Woody Allen disait « le méchant, c'est sans doute quelque chose que le gentil ignore ». Hein, il y a quelque chose qui est de l'ordre du dessein commun qui dépasse simplement la dimension de la dépression individualiste au sens de l'individualisme de déliaison subie ou au contraire revendiquée.
Moi, je vous avez posé la question que peut faire l'homme politique. Moi, je pense qu'il ne faut pas attendre un sauveur ou même dans la corporation des professionnels ou des gens qui font de la politique. Je pense que, et ça serait assez intéressant de voir, on a parlé de l'intimité, précisément ce qui fait que l'intimité aujourd'hui est re-questionnée au-delà des formes habituelles dans lesquelles elle était, on a parlé des liasses structurées précédemment. Mais je crois que il y a, je ne parlerai pas de démocratie participative, etc., mais je crois qu'il y a aujourd'hui, par de multiples manières de s'organiser, etc., il y a une richesse du monde associatif. On l'oublie trop souvent. La France est le pays qui compte le plus d'associations.
Et on le voit notamment à Montpellier, près de 2000 associations sur Montpellier.
Or, il y a la démocratie participative, mais il y a aussi la démocratie associative. Les associations, et quand on parlait tout à l'heure de la globalisation, le fait que l'interdépendance apparaisse au niveau mondial, et tous ces phénomènes qui sont bien connus des économistes, etc., il y a aussi la réappropriation de sa propre proximité. On le voit dans toute une série d'actions qui ne sont pas simplement des actions philanthropiques et humanitaires, mais aussi par rapport à des projets. Des gens ne veulent pas qu'on construise une usine à béton catastrophique à côté de chez eux. Ils affrontent des groupes multinationaux et, contre toute attente, ils arrivent à introduire parfois des rapports de force, des choses qui eussent été impensables dans d'autres contextes. Donc je crois que c'est beaucoup plus pluriel. Et peut-être ce qui est saturé, alors là, on a parlé de la saturation de modèles, peut-être que ce qui est saturé, ce sont les modèles classiques des partis politiques, des formes souvent d'organisation, etc. Et moi, je suis très attentif à la façon dont la jeune génération se confronte, se met à l'épreuve du politique. Et je pense qu'il y a des choses qui sont actuellement en germination, qui donneront sans doute d'autres modes de rapport aux politiques.
Marc-Lévy, vous voulez intervenir ?
Oui, je voulais revenir parce que je trouve que la dimension politique maintenant de notre débat est des plus intéressantes. Parce que peut faire le politique ? Alors, je ne veux pas désespérer les personnalités politiques. Je répondrai à ma propre question par très peu, tout en pensant secrètement ce que peuvent faire les politiques.
C'est le discours de Jospin, notamment, en matière économique.
Le politique, aujourd'hui, est confronté à une impuissance radicale.
Et pourquoi ?
Dont il se plaint. Eh bien, justement, je vais essayer de répondre à votre question. Parce que nous sommes dans un temps où l'objet a supplanté l'idéal et où la main invisible du marché manipule la jouissance de chacun. Vous toussez à Tokyo, vous vous enrhumez à Londres. Et ça, c'est un effet effectivement de la mondialisation. Or, l'identification, cette fois, du un par un, vise un objet commun qui est rien d'autre que l'objet. Et cet objet, il porte un nom terrible, c'est l'argent. Bon. Alors c'est lui qui actuellement concourt à nous déshumaniser gravement. Et alors on se dit, mais comment on va faire ? Bien, on a eu un coup de semonce il y a 2 ans, on a parlé de crise financière, crise du capitalisme, etc., etc. De ce point de vue, on en discutait tout à l'heure tous les deux. Vous me disiez, mais là, vous êtes bouddhiste. Au moins sur un point, oui. Dharma et adharma. Les choses se font, se défont, se refont, se redéfont seules. Et c'est tout le talent du président Mitterrand de l'avoir compris. Les choses se font et se défont toute seule, parce qu'il y a une combinatoire des mondes, des modalités existentielles, des modèles sociologiques, des intérêts, des nationalismes, des communautarismes. Il y a une combinatoire, il y a un mouvement brownien qui, à un moment donné, détermine le rapport à l'objet, la rupture de l'idéal, la défaillance du nom du père, la prévalence du monde de l'argent. Mais ce monde, il n'est pas plus fiable qu'un autre. Il s'est cassé la figure, il se la recassera. L'humanité et l'humanisme n'ont pas perdu leur potentialité. Nous sommes dans un creux de vague. Demain, la Renaissance.
Et le politologue, alors vraiment, le politique peut rien.
La maîtrise du destin.
Alors, j'insiste quand même sur une contradiction entre le début et la fin du récit de Marc Lévy.
Sur bien sûr,
c'est pour ça que j'insiste dessus. C'est qu'au début, vous dites que la politique ne peut rien et qu'à la fin, vous dites que les lendemains peuvent éventuellement chanter. Donc je pense effectivement.
Mais pas sous l'égide des hommes politiques. Mais les hommes politiques ne décréteront pas la Renaissance. Elle se fera ou elle ne se fera pas seule.
La politique, ça n'est pas que les hommes politiques. Les hommes politiques, oui. c'est une division sociale particulière du travail dans une société. À laquelle, évidemment, on accorde très peu de crédit aujourd'hui. Il y a qu'à voir les pourcentages dans certains quartiers de participation électorale où on est à peine au-dessus de 10% pour des élections régionales, par exemple. Ça n'est pas donc seulement une question de délégitimation passagère et nationale du personnel politique. La politique, c'est d'abord l'action publique. C'est-à-dire l'ensemble des politiques qui n'apparaissent pas pour nécessairement politiser, mais qui font bien partie d'une manière de gérer le vivre ensemble au travers de dispositifs sociaux, économiques, culturels. La politique culturelle, c'est de la politique. S'il y a un ministère de la culture en France, c'est parce qu'on veut faire de la politique avec la culture. C'est aussi parce qu'on veut faire de la culture avec la politique. Et puis c'est la délibération, sur le bien commun. Et le bien commun, il apparaît effectivement à des échelles extrêmement différentes, plus ou moins institutionnalisées, dans des logiques d'autoconsommation, comme disait Braudel, c'est-à-dire de ce marché qui n'a pas besoin de place particulière, mais qui se joue selon des logiques de troc qu'on voit réapparaître aujourd'hui dans des logiques de subsistance à l'échelle mondiale, comme dans certains lieux de l'arrière-pays du Languedoc-Roussillon également. Donc des nouvelles formes de coexistence qui posent la question du bien commun. À partir du moment où vous posez la question du bien commun, vous êtes dans une logique politique. Et celle-là, à mon avis, elle est extrêmement difficile à arracher de la vie des hommes. Et c'est la raison pour laquelle la vie en société, moi je pense qu'elle ne peut pas se passer de la politique.
Un petit clin d'œil à l'actualité, si vous voulez bien. Le gouvernement d'aujourd'hui, est-ce qu'il contribue au vivre ensemble, le gouvernement d'aujourd'hui, notamment avec cette idée de débat qu'il y a pu y avoir sur l'identité nationale?
Alors,
est-ce une bonne idée ou une mauvaise idée?
Je dirais d'abord que je vais d'abord analyser Nicolas Sarkozy. Enfin, pas analyser, excusez-moi, Marc Lévy. Je vais faire référence à Nicolas Sarkozy. Il y a un point sur lequel, à mon avis, il a été un facteur aggravant de la situation actuelle, c'est dans cette espèce de tactique hyper médiatisée de débauchage d'hommes politiques des autres bords. Vous me direz que c'est une critique que doivent partager ces personnels politiques d'autres bords, Kouchner par exemple, et vous avez raison. Mais là, je pense que cette dissolution des grandes divisions portées par la politique, et qui représente finalement la société de manière conflictuelle et relativement ordonnée, c'est un facteur de crise de la politique.
Sarkozy a réussi ce que Mitterrand avait échoué en 88. La politique d'ouverture de Mitterrand en 88, conduite par Rocard, qui a été un échec, puisque l'ouverture ne s'est pas faite, Sarkozy a réussi à le faire à l'envers. Quoi.
Oui, enfin, l'ouverture, elle s'était quand même un petit peu faite.
Un tout petit peu, oui.
Jean-Marie Roche,
maire de Metz, ça n'avait pas suffi pour éviter une dissolution en 88.
Quoi. Oui, mais je prends cet exemple-là parce qu'il est contemporain. Il n'est pas sans, sans préalable. Vous avez raison de dire qu'une certaine forme de mitterrandisme a contribué aussi, à sa manière, à mettre en crise le système politique dans lequel nous nous trouvions. Alors, sans doute que s'il a pu le faire, c'est parce que le système politique lui-même s'y prêtait.
Mais oui.
Et sa décomposition était déjà un petit peu avancée, ou en tout cas sa lente recomposition, parce qu'il ne faut pas injurier le futur, était sans doute déjà en germe. Mais voilà, alors ça, c'est une première chose. Après, la deuxième chose, plutôt sur les retraites, etc., c'est qu'il y a une conception de la démocratie dans ce gouvernement qui est une conception exagérément, sans doute, représentative. Je suis légitime tout le temps que dure mon mandat, point.
Et confiscatoire du pouvoir.
En réalité, la démocratie et la légitimité, elle est d'une part liée au mandat qu'on a obtenu, mandat représentatif, mais elle se rejoue en permanence parce que certains appellent, Rosan Vallon par exemple, la démocratie sociale, c'est-à-dire l'expression des corps intermédiaires. Et on n'en manque pas en France. Il y a toutes les associations. Il y a aussi toutes les collectivités territoriales. Il y a les syndicats, bien entendu, plus un certain nombre de corps constitués. Donc c'est collectif à différents degrés qui joue un rôle dans le débat public et que le gouvernement actuel tente à considérer comme beaucoup moins légitime et n'ayant pas voix au chapitre sur des réformes qui sont décidées par la puissance soi-disant légitime pour son mandat.
Il nous reste 3 minutes, presque 1 minute pour chacun. Mais plutôt 3 minutes à 3. Est-ce que vous ne pourriez pas vous mettre d'accord, là, en 3 minutes, sur une définition à minima, le psychanalyste, le sociologue, le politologue, du vivre ensemble ? Vraiment, un truc à minima, bon, en disant, bon, bah voilà, le vivre ensemble, bon, allez, c'est ça, et là, on est d'accord. Difficile, pas possible ?
Bah, moi, j'ai trouvé que le fait de se respecter sans forcément avoir à s'aimer... C'est une bonne base à partir du moment où, pour faire justice à la politique, on rejoue en permanence ce contrat.
Là, Marc Lévy va forcément être à peu près d'accord.
Oui, bah, enfin,
se respecter sans être contraint de s'aimer.
La proposition que je vous faisais tout à l'heure, être tolérant, sinon docile à la modalité de jouir d'autrui, sans pour autant s'embrasser.
Voilà. Avant qu'on aille un tout petit peu plus loin, et peut-être au sociologue, mais ça veut dire quoi, se respecter ?
Je dirais un élément, ce qui, à mon avis, ne serait pas remis en cause par mes deux collègues, c'est la fraternité, la laïcité, c'est-à-dire les valeurs républicaines, c'est l'égalité et la liberté. L'égalité, c'est une dimension juridique, avoir des droits et des devoirs. Dans un système qui est celui du contrat. La liberté, c'est pouvoir avoir son intime conviction protégée, et également de culte, etc.
Oui,
je termine. Oui. La fraternité étant quelque chose de beaucoup plus spirituel. Et à mon avis, c'est ce qui aujourd'hui fait défaut. On a beaucoup insisté sur les atteintes à la liberté, dans certains domaines, des remises en cause de l'égalité juridique dans d'autres domaines. Et je pense qu'effectivement, la soudure des deux termes, ce qui fait qu'effectivement, pour ce qui regarde notre pays, il y a une particularité, une exception, c'est qu'on a donné à une notion philosophique et à une notion juridique un substrat qui va beaucoup plus loin.
Alors, bon, on achève, là, au niveau de l'émission.
Il y a juste un dernier mot concernant la devise républicaine. Elle est très belle, mais elle n'a aucun sens.
Ah.
L'égalité, c'est une fantaisie de la pensée. La liberté, il n'y en a pas. Quant à la fraternité, elle ne se décrète pas.
Ah, ça, c'est sûr. Ça ne se décrète pas, c'est sûr.
Et le respect, est-ce que vous pourriez définir ce que pourrait être respecté ? Il nous reste 30 secondes. Hein.
Le respect, c'est la différenciation positive.
C'est-à-dire, concrètement ?
C'est le fait de reconnaître l'autre comme différent, mais en même temps...
Et de l'accepter comme tel.
Égal en droit de l'exprimer
voilà.
et d'en débattre avec soi.
D'accord. C'est peut-être ça, la fraternité.
C'est l'ouverture, c'est l'apérité.
On l'a fait avancer un petit peu, le schmilblick.
C'est être
difficilement, mais on l'a avancé.
C'est être disponible, c'est être ouvert à l'autre, c'est accueillir la parole de l'autre.
Alors la semaine prochaine, on va discuter d'école.
L'autre comme semblable, c'est le frère.
On va discuter d'école, on va discuter d'éducation, d'instruction.
Ça, c'est pas idéal.
Et il y aura aussi un militaire qui sera là pour voir si en fait l'armée ne se pourrait pas être la solution. Telle qu'elle l'était auparavant, avec le service militaire obligatoire qui était faiseur de vivre ensemble, il y a encore une vingtaine d'années de ça.
J'ai cru que c'était la
bonne semaine à vous, et n'oubliez pas que la révolte est un devoir et non pas un droit. Oh,